Et salut les Mars, salut les Smart, bienvenue dans votre émission Talking Catch, deuxième édition de votre émission qui décortique les nouvelles du monde du catch, WWE et autres. Aujourd'hui, pour m'accompagner, moi vous m'avez reconnu évidemment, c'est Ringside. Hank est parti en vacances pour le remplacer, notre ami le célèbre Giscal, ça va bien?
Hey, ça va très bien et toi, Ringside?
Écoute, la pêche, la patate quoi. Alors, Talking Catch un peu spécial cette semaine. On est un peu à la bourre, on s'excuse, hein, on a un peu de retard, mais on va essayer de faire complet. On va vous parler de Hell in a Cell, évidemment, le dernier pay-per-view de la WWE. Et on fera un petit peu toutes les news, les dernières news de l'univers du catch. On va parler des arrivées à NXT. On va parler des déboires de la TNA, la suite du feuilleton. Des petites nouvelles sur Survivor Series qui arrivent. Un nouvel acteur dans le monde du catch. Flow Media qui va nous proposer du streaming sur les spectacles indépendants. Et voilà ce qu'il en est pour les news. Donc on verra ça en fin d'émission. On va commencer par le gros morceau, c'est-à-dire Hell in a Cell. Donc Hell in a Cell qui se déroulait le 30 octobre
C'est ça.
à Boston dans le Massachusetts.
Dans le Massachusetts ce soir.
Massachusetts, donc une grande
C'est
soirée
l'état de... Non,
historique.
attention.
Pardon?
L'état de John Cena, quand même. Hein.
Ah,
Il est...
voilà.
Ouais, c'était un pay-per-view rouge, mais bon, ça... c'était important.
Donc ça partait du bon pied pour toi, du coup,
Oui, voilà, tout de suite,
ce
j'étais mis en
pay-per-view.
condition, c'était très positif.
Pay-per-view historique, triple main event, puisqu'on aura notamment Rousseff contre Roman Reigns pour le championnat des États-Unis. On aura le champion de l'univers Kevin Owens qui va affronter Seth Rollins aussi dans la cage. Et un troisième match dans la cage avec Sasha Banks et Charlotte. Hein, la championne Sasha Banks qui défend contre Charlotte. Premier match de l'histoire des filles dans une cage. Donc encore une fois, un pay-per-view historique. Alors, on va commencer par le kick-off.
Oui.
On avait un match de cruiserweight, un match à 6, qui opposait Cédric Alexander d'un côté, avec à ses côtés Lindsay Dorado et également Sin Cara. Et de l'autre côté, les méchants Tony Nese, Drew Gulak et Arya Daivari. Donc un match de 9 minutes 41. Qui a vu la victoire des gentils, Cédric Alexander, sur son célèbre backbuster. Donc un match quand même relativement long et puis assez explosif. Hein, ça a vraiment chauffé le public. Il y a eu des gros spots de part et d'autre. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, toi, Giscal?
Écoute, ouais, c'est ça, plutôt explosif. Ça a parfaitement rempli son rôle dans le pré-show qui, je trouve, est de plus en plus pay-per-view après pay-per-view une sorte de pré-opener, quoi. Enfin, c'est quasi un opener. C'est vraiment pour chauffer la foule et du coup, ce spot était parfait pour eux. Ils l'ont pleinement exploité. J'ai trouvé que c'était vraiment très sympa. Victoire des gentils, somme toute logique, à la fois parce que en pré-show et puis souvent sur des matchs un peu fourre-tout comme ça, c'est souvent les gentils qui gagnent. Et puis sans spoiler la suite, on était assez nombreux à anticiper un changement de titre potentiel au niveau de la division Cruiserweight, donc on pouvait s'attendre à voir les gentils gagner pour contrebalancer justement peut-être proposer un nouveau challenger après derrière. Donc voilà, bon, écoute, j'ai trouvé ça très sympa, très dynamique, super entrée en jambes. Tout le monde a eu de la bonne exposition.
Oui, et une grosse pop j'ai trouvé pour Cédric Alexander qui à mon avis sera le...
Et Cédric Alexander, ouais, qui est bien over, hein, du côté des. C'est un des rares qui tire son épingle du jeu avec Rich Swann, qui n'était pas là ce soir, mais c'est en effet un des rares qui arrive à, on va dire, à susciter une réaction positive ou négative, mais susciter une réaction du public, ouais. Sachant que son finisher est vraiment super sympa, hein,
Ouais,
vraiment j'aime beaucoup.
très joli son Buster. Mais ouais, je pense qu'il est parti pour pour rentrer dans la course au titre, hein, tout doucement.
Voilà,
Sans
sans...
spoiler la suite du. Hein, que vous étiez nombreux à voir venir, mais pas moi. Eh oui,
Désolé.
on se refera la prochaine fois pour pour les pronos. Bon, bah oui, ça fait le boulot hein, ce match avec les cruiserweight. C'est toujours intelligent de mettre les cruiserweight en début de show, hein, histoire de.
Ouais, ça les évite de tomber dans
C'est ça.
l'oubli. Comme ça a pu être le cas, on verra après, hein, mais bon, c'était peut-être un peu ce qui a péché après, mais bon, on en reparlera.
C'est ça. Bah on va passer au show en lui-même, hein,
En
le
vrai,
vrai opener de la soirée. Rien de moins que le championnat des États-Unis. Roman Reigns défend son titre face à Rusev. Rusev toujours accompagné de Lana. Et tout ça dans la cage, Hell in a Cell. Donc un match quand même de 25 minutes 21.
ouais, énorme match.
Énorme match, c'est le plus long de la soirée. Donc c'est alors très violent, hein. Comme d'habitude, les deux sont toujours très explosifs, tout dans la puissance, hein. Ça utilise les escaliers, ça utilise des kendo sticks. Ils ont laissé les tables de côté, ils ont un peu utilisé les chaises. Rousseff a même fini par sortir une chaîne pour étrangler Roman Reigns en même temps qu'il lui portait l'accolade, le tout sur les escaliers de fer. Mais c'est quand même Roman Reigns qui s'en sort. Après quand même, bon, quand même une bonne domination de Rousseff pendant le match. Roman Reigns qui s'en sort avec ben, notamment un Samoan drop sur les escaliers de fer et puis un magnifique spear qui voilà
Prenant,
prenant Rousseff voilà
prenant Ulan, ouais, Rousseff était sur
voilà
les
escalier
escaliers.
posé sur le ring, Roman Reigns qui fait le spear sur Rousseff et Rousseff qui s'écrase au sol et qui se relèvera pas après 25 donc minutes de match. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça mon bon Giscard?
Écoute, enfin voilà, ils ont clos cette rivalité de la meilleure des façons. C'était vraiment, je pense que, enfin moi en tout cas en me concernant, c'était leur meilleur match de très très loin. Aux deux, ils ont proposé un superbe Hell in a Cell en jouant parfaitement avec la stipulation. C'était super violent, tu l'as dit. On a eu des escaliers, du kendo stick, utilisation de la chaîne vraiment très sympa de Rousseff qui a porté son accolade là en lui mettant comme un mors de cheval là. Il lui a mis la chaîne entre les dents pour le tirer en arrière là. C'était vraiment ultra violent visuellement. Voilà, bon, j'ai beaucoup aimé. C'était un Hell in a Cell très différent. On verra des deux autres Hell in a Cell qu'il y a pu y avoir dans la soirée, puisqu'ils ont finalement, j'ai trouvé, mis assez pas mal de temps avant de sortir du ring. Ça a passé pas mal de temps au début avec des gros power moves dans le ring avant de vraiment commencer à s'envoyer valser sur les cages, enfin sur la cage et dans les escaliers et compagnie. Donc il y a eu une montée en puissance vraiment vraiment pas mal. Et puis bah le finish était top visuellement, esthétiquement là, enfin et niveau violence, c'était vraiment, voilà, on a atteint petit à petit, on montait dans la violence et on a atteint vraiment le paroxysme à la fin avec cet accolade. Et puis derrière le summon drop, le spear, c'était top. Très content du résultat. J'ai trouvé que Rousseff n'en sortait pas du tout amoindri. Il a fait quand même pendant ce match-là, je sais pas ce que tu en as pensé, mais je trouve qu'il a fait quand même largement la course en tête pendant une bonne
Ah,
partie du match.
clairement, clairement.
Roman Reigns a encaissé, encaissé, encaissé. Et puis bah voilà, comme héros qu'il est, puisque bon, c'est comme ça qu'il est dépeint, il a fini par se relever et puis bah porter l'estocade fatale. Donc c'était bien raconté, voilà, ça clôt de la meilleure des manières une rivalité qui aura plu, qui aura déplu, mais qui aura eu le mérite au moins d'être intense jusqu'au bout et qui nous aura donné quand même pas mal de bons matchs. Donc c'est du bon boulot. On va voir la suite maintenant pour les deux hommes, mais c'était du très bon boulot et une belle façon d'ouvrir le show aussi. Je m'attendais vraiment pas à ça en opener, surtout aussi. On aurait pu imaginer des matchs un petit peu plus public friendly type je sais pas les tag teams Cesaro et Sheamus contre les New Day ou pourquoi pas les Cruiserweight, mais bon c'était pas évident parce qu'ils étaient en pré-show juste avant, donc ça aurait été un peu bizarre, mais on aurait pu imaginer un truc un peu plus virevoltant en opener, donc c'était original, mais j'ai trouvé que ça a plutôt bien fonctionné. Voilà, ça a mis le public dans l'ambiance directe.
Ouais, non, gros match, hein. Effectivement, comme tu dis, parfait pour conclure toute leur storyline. Et puis, effectivement, Rousseff qui est quand même très impressionnant tout le long du truc. Voilà, hein,
Ouais, franchement. Je m'inquiète pas
voilà,
trop pour lui.
victoire quelque part sans surprise de Roman Reigns, mais bah voilà.
Ouais, là par
Bon,
contre, je pense que ça a pas surpris
ouais.
grand monde. Mais bon, c'est l'histoire qui est comme ça aussi. On voyait mal Roman Reigns perdre cette feud.
Ouais, bon, ça reste Rousseff reste un ennemi carrément valable, hein, un des mecs les plus puissants du roster. Et puis Reigns, il s'impose comme le super-héros, hein, de toute façon, c'est comme ça qu'ils veulent le vendre, donc ça continue là-dessus.
C'est
Voilà,
cohérent, on va
effectivement, ils
dire.
finiront par avoir le public à la longue, hein, qui commence à se
Ah,
fatiguer
peut-être. Ouais.
de Roman Reigns.
Mais c'est marrant, il a des dynamiques de match où c'est ça. Je sais pas si le public se fatigue ou si petit à petit ils se prennent au jeu, mais j'ai souvent l'impression dans les matchs de Roman Reigns quand même qu'il est hué à son entrée et au moment de la victoire finale, il a quand même réussi à retourner un petit peu la foule et généralement ça se finit plutôt bien ces matchs à ce niveau-là.
Ouais.
Donc bon, ça c'est encourageant.
C'est ça. On verra ce que l'avenir nous réserve pour ces deux-là. Alors ensuite, on avait un petit match entre Bayley et Dana Brooke. Un petit match de 6 minutes 28 qui voit la victoire sans surprise, j'ai envie de dire, de Bayley sur Dana Brooke via Belly to Belly après un match relativement classique où Bayley a surtout vendu sa blessure à l'épaule, ce qui permettait à Dana Brooke de prendre l'avantage, mais ça n'a pas suffi, hein, pour battre Bayley. Rapidement, qu'est-ce que tu as pensé de ce petit match?
Bon, c'était important que Bayley le gagne, celui-là. Je pense qu'en effet, ça n'a pas surpris grand monde. Si jamais, d'ailleurs, ça n'a pas surpris grand monde, donc vous pourrez aller engueuler Raphaël, hein, qui était en charge de mettre les pronostics sur le site des Cahiers du Catch, hein, puisque si nos auditeurs votent habituellement sur les Cahiers du Catch, ils n'ont pas pu pronostiquer pour ce match, puisque Raphaël ne l'avait pas anticipé dans le module de pronostics, donc c'est de sa faute, vous pourrez l'incendier.
C'est ça.
Vous avez tous perdu un point puisque je pense que tout le monde l'avait vu venir. Mais ouais, voilà, ouais, bon, pas bah, petit match sans prétention qui avait pour objectif de remettre un peu Bayley dans le bon sens. C'était, moi, j'ai vécu ce match un peu comme une sorte de squash rallongé parce que j'ai vraiment eu l'impression que c'est Bayley qui de bout en bout a quasiment écrasé Dana Brooke, même s'il y a eu quelques petites périodes de face en péril classique avec son bras. C'était quand même assez large, c'était assez décisif cette victoire pour Bayley. Donc, je pense que ça devrait augurer d'autres choses, j'espère, pour elle après derrière, parce que ça me semblait assez définitif, mais bon, à voir.
Ouais, espérons que ce soit la fin de leur rivalité, qu'on passe à autre chose. Voilà, Dana Brooke n'a pas été trop dégueulasse, il n'y a pas eu trop de botch ou de choses comme ça, mais
Non,
c'est
voilà,
vraiment très
c'est ça.
très classique. Voilà,
Match de
c'est
mid-card
ça,
standard, quoi.
exactement. Alors, la suite, on va passer au tag team pour un match qui oppose Luke Gallows et Karl Anderson à la Team Soft, Enzo Amore et Big Cass. Donc encore un petit match, hein, 6 minutes 46. Donc c'est très serré, mais c'est quand même plutôt, on va dire, Soft qui domine le match avec des grosses démonstrations de force de Big Cass. Enzo qui tire bien son épingle du jeu, même face à Luke Gallows. Sachant qu'ils ont bien miné le moral de leurs adversaires avant le match avec une promo où ils ont traité les deux mecs du club avec des sobriquets. Alors je sais plus, j'ai plus comment
Ouais.
ils ont appelé Luke Gallows, Big Gal, je crois.
Ouais, alors il y avait Big Gal, ouais, c'est grosse mémère, enfin grosse femme, plutôt, hein, Gal,
Et
c'est ça.
Andy.
Et on dit, ouais, en mode
Voilà,
Toy Story,
parti dans un
donc.
drôle de truc là-dessus.
Ils sont partis assez loin, là, sur ce coup.
Ça a duré assez longtemps leur promo de début de match, puis après
Oui.
le club est arrivé en plutôt silencieux. Voilà, Bicass qui a fait une grosse démonstration de force, Enzo aussi donc qui s'en sortait avec des petites prises originales, des petits mouvements de danse avant de mettre des patates dans la gueule de ses adversaires. Mais au final, c'est quand même le club qui l'emporte. Dans une petite confusion, ils arrivent à placer, je crois, Enzo dans leur prise finale, le Magic
Magic
Killer.
Killer.
Et puis, ben, compte de 3, victoire du club. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, mon bon Giscal?
Écoute, encore une fois, match relativement standard de mid-card en pay-per-view, quoi. C'est du filler. J'ai pas été transcendé par ce match. Je l'ai pas trouvé extraordinaire. J'ai pas, enfin voilà, il y avait pas de spot incroyable, il y avait pas de vraiment de grosses innovations par rapport au match qu'ils avaient pu avoir avant. Donc c'était correct, c'était propre, pas de d'horreur. Je soulignerais le résultat que j'avais pronostiqué, mais sans vraiment trop y croire, cette victoire de Gallows et Anderson, mais qui me paraît vraiment importante parce que vu le niveau de pop que les deux, que la Team Soft a, ils sont vraiment, enfin ils sont imperméables à toute défaite, je pense. Surtout contre ces deux-là, ça posera pas de problème. Et alors que par contre, les deux méchants, on avait vraiment bien besoin de cette victoire. Donc c'est plutôt bien vu de ce côté-là. J'y croyais à moitié en pronostiquant ça, mais je suis plutôt content. Donc voilà, écoute, après, je sais pas trop ce que ça augure pour la suite de ces deux équipes qui sont un petit peu sans direction. Mais en tout cas, la bonne équipe a gagné. C'était un match correct, qui a fait plaisir au public, au milieu du pay-per-view. Donc bon voilà, on peut pas en demander beaucoup plus.
Ouais, exactement. Bah, ce qui est bien, c'est qu'ils ont laissé un peu dérouler Bicass. Ça fait longtemps qu'il avait pas
C'est vrai.
démontré un peu toute sa puissance.
Pour faire des hot
Voilà,
tags.
exactement. Et comme on sait qu'il parie quand même un petit peu sur lui pour l'avenir, c'est quand même bien qu'il
C'est
le
pas faux.
montre un petit peu comme ça dans toute sa puissance. Enzo, pour une fois, il n'a pas servi de serpillière. Après, c'est sûr que le club était un petit peu en deçà, mais comme c'est eux qui sortent avec la victoire, c'est pas plus mal. Voilà, un petit match solide, comme on dit. C'est pareil là-dessus, hein, on va voir où ça va emmener les deux équipes. Et on va enchaîner sur la deuxième partie du main event, c'est-à-dire le championnat de l'univers. Rien moins
Oui.
que Kevin Owens et le champion de l'univers, donc qui doit défendre son titre face à Seth Rollins. Toujours dans la cage, toujours dans l'enfer de la cellule. Donc encore un gros match. Ça a duré 23 minutes 15, donc un petit peu plus court que l'opener. Alors gros match, hein. Toutes sortes de spots de la violence. Hein. Kevin Owens fou furieux, Seth Rollins aussi qui bataillait dans tous les sens pour survivre. Donc ça utilise des tables, ça utilise des chaises, et ça utilise même un extincteur qui va aveugler l'arbitre, qui va devoir sortir pour se faire soigner. Et pour sortir, bah, il est obligé d'ouvrir la porte. Et une fois que la porte est ouverte, bah, ça permet au meilleur ami de Kevin Owens de rentrer dans le ring. Chris Jericho qui débarque, qui essaye de perturber le match, mais alors à chaque fois qu'il tente quelque chose, il se fait cueillir par Seth Rollins. Mais bon, quand même, Rollins il se retrouve à deux face à la team Jericho. Et en plus, il y a des chaises, des tables dans l'histoire. Alors, c'est Kevin Owens quand même qui se mange un gros spot
Oui.
où il traverse deux tables. Mais bon, il arrivera quand même à prendre la victoire à Seth Rollins. Donc voilà, triomphant Kevin Owens, Seth Rollins complètement battu, et même Chris Jericho qui se permet en fin de match d'aller tabasser encore un peu plus Seth Rollins, et qui lève le poing, voilà, victorieux au-dessus de Rollins à la fin d'un match qui a quand même été énorme. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, toi?
Ah. Écoute, bah voilà, match énorme. Moi personnellement, c'est mon match préféré de la soirée. J'ai vraiment adoré. Voilà, bon, 24 minutes quasiment aussi. Gros match. Enfin, emplacement très intéressant dans la carte, hein, puisque du coup, ça confirmait à ce moment-là ce que tout le monde attendait. à savoir les filles en main event. Et puis ça venait aussi quand même rebooster pas mal le pay-per-view qui s'endormait un petit peu, parce que si on a beaucoup aimé l'opener, on avait enchaîné quand même sur Brooke Bailey et puis les tag teams, donc c'était important. Bah écoute, moi le match j'ai adoré. Enfin, il y avait tout en fait. C'était vraiment, et il avait d'ailleurs tous les ingrédients d'un main event de pay-per-view habituel. C'est pour ça que c'était assez surprenant de voir ça en milieu de show, parce que voilà, t'avais des spots de fou furieux, de l'overbooking, intervention extérieure, les finish dramatiques. Enfin voilà, il y avait tout pour presque finir l'émission là-dessus. Donc c'était vraiment assez dingue. Paquet de spots de fou, enfin ils se sont vraiment donnés comme des fous furieux, hein, avec moi j'ai quelques spots en tête qui j'ai vraiment beaucoup aimé, la Cannonball de Owens là contre la cage sur Rollins, qui était vraiment vraiment sale. Bon bah tu l'as dit, hein, le spot que Owens a bouffé là à travers les deux tables à l'extérieur du ring, ça c'était aussi super impressionnant. J'ai bien aimé Seth Rollins qui a sorti une sorte de Falconaro modifié là sur le tablier du ring, qui devait faire bien bien mal aussi. Donc voilà, bah écoute, gros gros match, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était très très bien exécuté, l'intervention de Jericho que tout le monde attendait, hein, le public a popé un truc de fou quand Jericho est arrivé. Et puis ce petit code breaker à la fin, après le match, qui est intéressant, qui alors que beaucoup de personnes commençaient à, enfin voyaient peut-être Hell in a Cell comme le théâtre du début d'une rupture un peu entre les deux, on a vu un Jericho plus lié que jamais, et qui est même allé en remettre une couche sur Rollins derrière. C'est intéressant, faut voir peut-être si est-ce qu'ils vont pas transitionner vers un Seth Rollins Jericho en attendant la grande feu de fratricide qu'on attend. C'est possible,
Exactement,
à voir. mais
exactement. Hein. Je pense qu'ils vont aller se raser
euh,
les deux pour la suite.
mais euh, mais bon bah voilà, en tout cas c'était nickel, j'ai rien à dire, hein. C'est du très 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 gros boulot. On les en savait capables, et ils ont delivered, quoi. Ils ont pas
C'est
déçu.
ça. C'est le match qu'on attendait entre eux depuis un bon moment, hein,
Ouais.
j'ai envie de dire, parce que la dernière fois on était un
Ouais.
petit peu en demi-teinte sur, même si le match était très bon. Il manquait ce petit quelque chose que là ils ont servi, parce
Là, ils l'ont.
qu'ils ont été jusqu'au bout de la violence, et ils ont il a fallu vraiment détruire Seth Rollins pour qu'il perde le match, quoi.
C'est ça, il a fallu vraiment le faire passer par tous
Voilà,
les.
les
Enfin,
tables, les
ils lui ont tout mis,
chaises,
quoi.
tout ce que.
Il y a eu des coups de chaise, putain. Il y a Owens qui lui mettait des coups de chaise, il se retenait pas, hein. Putain, là, il lui envoyait. Et puis c'était marrant, voilà, c'était très différent du premier Hell in a Cell. Ils se sont servis des tables, des chaises, alors que les premiers c'était plutôt kendo stick, escalier, tout ça. Donc c'était vraiment différent, c'était très sympa.
Voilà, donc très 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 bon boulot. Et donc Kevin Owens qui reste le champion.
Eh oui.
La suite, hein, à Monday Nitro, on vous en reparlera. Et la suite, eh ben, on est toujours sur du championnat, mais c'est le championnat des Cruiserweight Championship, qui voit Brian Kendrick, le vétéran, opposé à TJ Perkins, le champion. Donc un match de 10 minutes 30, où bon, on a une petite domination de Perkins quand même, mais c'est finalement Brian Kendrick qui va s'imposer grâce à un mind game, hein. Il simule une blessure à la cheville, ce qui stoppe le match, parce que l'arbitre vient le voir pour savoir s'il veut vraiment continuer, etc. etc. Perkins, il sait pas s'il doit y aller, s'il doit pas y aller. Il finit par s'approcher pour regarder ce qui se passe. Et là, évidemment, il se prend un méchant coup de boule de Kendrick. Et il se fait placer dans le crochet du capitaine, la prise de finition de Brian Kendrick. Et il est obligé d'abandonner.
Et oui.
Et c'est donc la victoire de Brian Kendrick, changement de titre, nouveau champion, le vétéran Brian Kendrick qui devient le champion cruiserweight, et TJ Perkins qui est obligé de taper. Quel est ton avis sur tout ça, Giscal?
Bah, moi je suis un peu partagé, parce que j'ai trouvé le match plutôt bon, et j'ai trouvé que en fait à un autre endroit, à un autre moment, je pense que j'aurais vraiment beaucoup beaucoup apprécié ce match, mais là ils avaient un peu le spot de la mort en fait dans la carte, parce qu'ils devaient suivre un match de fou furieux qui était vraiment, enfin c'était le thème du pay-per-view, c'était la violence à tous les étages, c'était ultra intense, c'était ultra dur d'aller derrière, ce qui fait que Bon bah ils ont malheureusement pour eux catché dans un silence de cathédrale quasiment hein, parce que le public n'en avait plus grand chose à faire de ce qui se passait derrière. Ils attendaient plus qu'une chose, c'était le main event des filles derrière. Donc ça, je trouve que ça a beaucoup gâché ce match qui, au demeurant, était plutôt bon. Moi, j'ai bien aimé l'histoire entre les deux, l'histoire racontée dans le ring entre les deux, avec un début de match très soigné, très technique, beaucoup de contres, beaucoup d'enchaînements parce qu'ils se connaissent par cœur, donc ils arrêtaient pas de se devancer, de se contrer, d'anticiper les mouvements de l'un de l'autre. Donc c'était vraiment super plaisant à regarder. J'ai bien aimé aussi au moment du serrage de main, tu vois Kendrick qui lui lâche un petit regard, genre bon, hey, t'oublies pas, hein, tu me laisses gagner. Tout était plutôt bien joué, c'est bien monté. Et puis bon bah après il y a ce finish qui est quand même super bancal. Moi j'ai trouvé ça très moyen. Le coup du vétéran là, s'il voulait faire passer TJ Perkins pour une andouille, c'est réussi parce que il lui a déjà fait un coup, il lui a déjà fait le même coup dans le vestiaire, soi-disant il s'était fait mal là et puis il avait essayé de lui en coller une dans le vestiaire et puis on le sait qu'il est truqueur et tout donc c'était ridicule de venir essayer de le chercher, de le relever donc bon bah du coup limite à la fin sur la prise de soumission j'étais là bah, j'étais presque content qu'il perde parce que je me disais bon bah, bien fait pour toi quoi enfin t'es con quoi enfin bien fait non mais c'est vrai
Bien fait pour sa gueule,
et
cet
donc
abruti.
ouais bien fait pour sa gueule écoute t'es débile bon bah tu mérites pas d'être champion tant pis pour toi quoi donc je sais pas j'ai trouvé que c'était un peu contre-productif ça a pas trop fonctionné auprès de moi alors que c'est dommage parce que j'ai trouvé qu'ils avaient travaillé un match plutôt intéressant avant. Desservi par l'emplacement dans la carte et l'ambiance autour d'eux. Mais voilà, bon, écoute, j'espère que ça va donner le petit coup de fouet nécessaire pour la division Cruiserweight parce que pour l'instant ça marche pas trop. La preuve, parce que sinon peut-être que le public aura réagi différemment à leur match aussi.
Ouais, mais en même temps c'est délicat parce qu'ils font des bêtises. Hein. C'est vraiment, moi je trouve que c'est idiot de faire abandonner encore une fois TJ Perkins.
Ah
C'est la
bah, mais c'est
deuxième
deux
fois qu'il
fois.
est sur abandon en plus. Alors quand
Ouais.
t'essayes d'imposer quelqu'un comme un nouveau champion babyface et que le mec il abandonne déjà deux fois dans son premier mois
Je suis d'accord.
à son arrivée, là le mec il est enterré. Alors que c'est dommage parce que moi je trouve que c'est un mec pour les gosses qui a du potentiel quoi.
Ah moi je l'aimais bien en
C'est
champion, hein,
sûr,
mais
une belle gueule, il est impressionnant dans le ring. Là le match c'était plus un match de déroulé des capacités de Brian Kendrick.
ouais.
Clairement, TJ Perkins il a pas fait beaucoup de ses moves habituels assez spectaculaires de high flyer. Donc là c'est dommage parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train d'enterrer TJ Perkins et c'est pas comme si la WWE elle avait encore beaucoup de superstars donc quand on a la possibilité d'en créer une c'est peut-être bien de capitaliser dessus et pas de l'enterrer au bout d'un mois comme ils sont en train
Ouais,
de faire
c'est vrai
là.
que c'est un peu, ouais, je suis assez d'accord. J'aime pas trop d'habitude ce mot enterré parce que bon, on peut toujours remonter la pente, mais c'est vrai que la gestion de la division dans son ensemble et de TJ Perkins c'est un peu surprenante parce que ils l'ont fait gagner le tournoi Cruiserweight, ce
C'est
qui
ça.
est quand même a priori une marque de confiance forte. Enfin voilà, moi je les voyais bien capitaliser à fond sur lui. Et en effet, comme tu dis, le faire perdre deux fois de suite contre Brian Kendrick sur abandon en à peine un mois d'existence et de lui faire perdre sa ceinture aussi vite comme ça, si c'est pas un désaveu, ça y ressemble beaucoup en tout cas. Donc
Après, les dommages sont là, quoi. Et puis voilà, une victoire de Kendrick, ça fait plaisir aux vieux fans comme nous. Mais est-ce que ça
oui.
fait beaucoup plus pour attirer du
Je
buzz?
sais.
Et puis,
Non, je sais même pas si c'est vraiment parce que les arguments qu'on voyait beaucoup sur Internet, parce que bon, c'est une victoire qui a pas bon qui bon t'as peut-être pas toi t'avais pas pronostiqué ça, mais je crois que à mon avis il faudrait voir les cotes et les pronostics, mais je pense qu'elle a pas surpris quand même beaucoup de gens cette victoire et souvent les arguments qui revenaient c'était que bah oui TJP ça marche pas, il faut mettre un mec mieux établi, plus reconnu du public, Brian Kendrick avec un personnage et tout. Je sais même pas si c'est des vrais arguments parce que en effet, enfin Brian Kendrick, il est parti quand même il y a je sais pas combien d'années et c'était pas non plus un main eventer donc c'est pas genre la superstar et il a l'âge qu'il a aussi donc c'est surprenant enfin voilà c'est pas non plus une stratégie qui coule de source, quoi. Enfin, je suis pas.
C'est voilà, c'est un des points noirs de la soirée, puis un des points noirs qu'on retrouve à Raw un peu à Monday Night Raw
Oui,
régulièrement,
voilà,
hein,
ouais,
ça
semaine après
là-dessus.
semaine, ouais.
Voilà, ça se précise qu'ils sont peut-être pas sur la bonne voie forcément au niveau des cruiserweight, mais bon, ça,
Ils ont du
voilà,
mal,
on
voilà.
verra bien ce que ça donnera pour la suite. Voilà, donc un nouveau champion, Brian Kendrick. On lui souhaite tout le bonheur du monde.
Oui.
Pour la suite, eh ben, on retourne au tag team, le championnat des tag team, hein, de Monday Night Raw. C'est comme ça que ça s'appelle maintenant. L'équipe dysfonctionnelle Cesaro-Sheamus vont essayer de prendre le titre au New Day, les imbattables New Day. Big E, Kofi Kingston, Xavier Woods. Ce soir, c'est Big E et Xavier Woods qui défendront leur équipe. Donc, dans un match donc un peu plutôt dominé par Cesaro et Sheamus, mais il y a quand même des bons déroulés de Xavier Woods qu'on voit le plus souvent dans le ring face aux
Ouais.
deux autres. Moi, j'étais content de voir Xavier Woods comme ça. Un petit peu dérouler son catch aussi. Donc bah, ça se termine de manière un petit peu compliquée, hein, c'est-à-dire que à l'extérieur du ring, Sheamus va frapper Biggie avec le trombone Francesca dans le dos de
C'est
l'arbitre,
ça, jusqu'à deux,
Francesca
attention.
2 exactement, dans le dos de l'arbitre, donc qui ne voit rien, alors même que Xavier Woods est piégé dans le sharpshooter.
Oui,
Donc,
exactement.
il est au milieu du
Le faire
ring, il a
comprendre.
pas trop de solution pour s'en sortir. Et donc, Biggie assommé par le coup de trombone, mais Kofi Kingston il est encore là. Et il se jette sur Sheamus, il lui fait son coup de pied sauté, dont tu vas me rappeler le nom, Giscal, comment ça s'appelle? Trouble in Paradise, voilà.
Trouble in Paradise, voilà, tu t'es
Je me
rattrapé tout
rattrape tout
seul.
seul. Donc, Trouble in Paradise dans la face de Sheamus. Mais c'est juste au moment où l'arbitre se retourne. Il voit Kofi qui est en train de frapper Sheamus. Donc, bah, c'est la disqualification. Alors même que Xavier Woods est en train d'abandonner. Il est en train de taper sur le tablier du ring. Malheureusement, c'est la disqualification qui compte. Et donc, victoire de Cesaro et Sheamus. Mais c'est le New Day qui conserve la ceinture. Un petit peu alambiqué cette fin. Dis-nous tout, qu'est-ce que tu en penses, Giscard?
Un peu compliqué cette fin. Sur le coup, j'étais pas convaincu. A posteriori, maintenant, à froid, je me dis que c'était finalement pas si mal joué. Pas si mal joué parce que bon bah voilà, ça va permettre, je pense, une seconde chance à Raw, peut-être, ou après, je ne sais pas. J'ai pas encore vu l'émission à l'heure où nous enregistrons. Mais toujours est-il que voilà, ça les laisse, on va dire, ça donne une victoire à Sheamus et Cesaro, ce qui est important, je pense, dans leur histoire, parce qu'une défaite aurait été bon, on en a beaucoup parlé avant ce Hell in a Cell. Une défaite semblait sonner le glas en fait de leur duo. Enfin, c'était quasi inévitable déjà qu'ils s'entendent pas. Si en plus ils perdent, c'est fini, c'est sûr. Et en même temps, le grand truc, c'était que bah, on voyait pas du tout une équipe de briquet de broc comme ça briser la série du New Day après 400 et quelques jours. À finalement, je crois qu'ils sont à un mois maintenant du record absolu. Ça semblait impossible. Donc au final, je me dis que ce finish a plutôt du sens. C'était finalement presque évident. J'aurais dû pronostiquer ça, je suis con. Mais voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et après, moi, j'ai alors pour le match, moi, j'ai trouvé ce match vachement sympa. Je sais pas ce que t'en as pensé.
Ah oui, non, c'était solide aussi, hein.
Je l'ai trouvé même mieux que celui de Raw. Et j'ai beaucoup
Carrément.
aimé, j'ai beaucoup aimé Sheamus dans ce match, en fait. J'ai trouvé que c'était, en fait, l'histoire entre les deux prend un tournant assez intéressant, parce que voilà, on a pu voir en fait pendant le match que bon bah Sheamus a broke kick Cesaro à un moment sans faire exprès, et à partir de ce moment-là, c'est assez drôle parce qu'il a tout fait pour essayer de se rattraper. Donc il a cassé des tombées, il a aidé Cesaro, il a du coup essayé même à un moment là alors que Cesaro portait le sharpshooter sur Woods, il a essayé de retenir Biggie qui essayait de rentrer dans le ring, il le retenait par la jambe. Donc là moi j'ai vraiment cru que c'était la victoire à ce moment-là. Et finalement bon bah voilà il y a Kingston qui arrive pour une énième distraction et puis après il y a le finish en disqualification qui arrive derrière. Donc c'était assez drôle parce qu'on voyait que Sheamus finalement développer une sorte de remords et puis vraiment se prenait au jeu de l'équipe et de ce match pour le titre et voulait tout faire pour gagner la ceinture et essayer de se rattraper un peu. Donc c'était assez drôle et je suis assez curieux de voir bah, finalement la suite puisque finalement bah on imaginait peut-être pas forcément Sheamus et Cesaro continuer dans la défaite ou en tout cas dans l'échec de conquérir les ceintures, c'est peut-être pas impossible. Ils vont peut-être trouver un terrain d'entente dans la combativité, voilà, dans le challenge et tout. Faut voir. Donc j'ai plutôt bien aimé ce que ça pouvait impliquer derrière et puis le déroulé, quoi.
Ouais, pour une fois il y avait une belle histoire dans le match et plutôt bien racontée avec effectivement une belle prestation de Sheamus qui est même monté en haut de la troisième corde pour se jeter sur la totalité du loubet à un moment donné. Non, c'était vraiment effectivement beaucoup mieux que ce qui est, enfin, beaucoup mieux. Mieux que ce qu'ils avaient servi à Raw. Mais on sent que voilà, le New Day, ils vont pas perdre la ceinture, à mon avis, avant la fin du record. Mais il y a peut-être de fortes chances pour que ce soit Cesaro et Sheamus qui leur prennent la ceinture. Ça risque de durer peut-être un petit moment.
Ah, c'est possible ça. Et on peut envisager bon, même si Cesaro est déjà face, mais on peut envisager c'est pas impossible qu'au bout de cette histoire il y ait une sorte de double turn un peu parce que enfin faut pas oublier que ça fait maintenant 2 fois que le New Day conserve sa ceinture en trichant
Ouais, c'est pas faux.
et ça commence à être un peu bizarre. Enfin, on sait qu'ils sont facétieux et tout, que ça passe mieux avec eux la tricherie. C'est pas forcément hors de. Mais bon, ils avaient triché contre les Gallows et Anderson, je crois. Ils ont triché là encore avec Kingston qui arrive avec le trombone, et puis bah le Trouble in Paradise et compagnie. Bon, à voir où est-ce que ça nous mène, mais c'est intéressant.
À voir. Ouais, ça vient, ça a redynamisé complètement la division tag team, hein. Là, c'est vraiment beaucoup plus intéressant à regarder maintenant. Et puis, y avait du suspense, hein, quand même dans ce match, hein. Jusqu'au final, j'ai bien cru qu'il allait taper, hein. Xavier Woods,
Oui,
même s'il a vraiment tapé, mais à un moment.
il a vraiment tapé, c'est vrai. Ouais. Mais il est resté quand même longtemps, longtemps,
Ouais,
longtemps dans
le
le
shooter,
sharpshooter.
c'était des secondes interminables. Ouais, voilà, donc plutôt du bon boulot de part et d'autre. Donc on va aller au dernier main event, le championnat féminin, Charlotte contre Sasha Banks, la championne, dans la cellule, dans la cage, pour la première fois, les filles s'affrontent dans la cage. Alors ça démarre avec des entrées grand standing, hein, puisqu'on a
Ah,
Charlotte qui débarque,
WrestleMania.
voilà, WrestleMania-esque. Charlotte donc sur un trône porté par des espèces d'esclaves catcheurs bodybuildés,
Oui, c'est ça.
voilà. Elle est amenée jusqu'au ring, hein, sur son trône. Et Sasha Banks, elle débarque en voiture avec des services de sécurité. Elle sort par le toit ouvrant. Grosse pop, hein, parce qu'elle est à Boston, hein, dans sa ville natale, on va dire. Donc la cage n'est pas descendue, elle va descendre doucement pendant qu'on présente les deux adversaires. Et Charlotte en profite pour placer un bon coup de coude, un bien violent à Sacha, avant que les présentations soient terminées, avant que la cage soit complètement descendue. Et donc le combat commence avec une Sacha qui est déjà bien diminuée. Et Charlotte, eh ben, après plusieurs minutes à batailler, hein, de part et d'autre, hein, ça jette contre la grille, hein, ça s'envoie dans les barricades. Elles vont toutes les deux grimper sur la grille. Charlotte va réussir à descendre avant, elle va réussir à attraper Sacha, la placer en powerbomb et l'exploser sur la table des commentateurs. Violent spot.
Très très violent, ouais.
Sacha va avoir beaucoup beaucoup de mal à s'en remettre. Les arbitres vont essayer d'arrêter le match. On va essayer de l'emmener en civière. Ça va durer de longues minutes. Et donc on va même annoncer hein, au micro l'arrêt du match, la défaite de Sasha Banks. Mais Sasha, elle accepte pas, elle se relève, elle sort de la civière, elle rentre dans la cage. Donc la décision est annulée, on reprend la ceinture à Charlotte et le match commence pour de la vraie cette fois-ci. Et puis on va avoir un putain de match hein, entre les deux. Ça va être très très violent. Les filles vont risquer de marquer. Hein, il va y avoir des projections contre la cage. On va utiliser les tables. Les tables qui vont avoir du mal à casser hein, parce que quand on envoie Sacha Banks
Ah
dessus, comme
oui,
elle n'est pas bien lourde,
c'est pas bien lourd,
ça
mais
rebondit en quelque sorte.
c'est un peu ça. Ça repousse.
Mais par contre, la grille, ça laisse des traces. Et ma foi, bah, ça se termine sur une victoire de Charlotte, l'imbattable Charlotte, en pay-per-view. Alors qu'il va. C'est-à-dire qu'elle va laminer Sasha Banks qui s'écroule dans le ring en essayant de porter une ultime powerbomb sur Charlotte. À travers le. Alors, en faisant la diagonale du ring, si vous voulez. Mais elle s'écroule au milieu, son dos lâche. Et donc, bah, Charlotte, elle va l'envoyer sur les tables plusieurs fois. Les tables refusent de casser. Et elle lui place comment ça s'appelle? Natural Selection.
Natural selection.
Voilà. Et ma foi, la pauvre Sacha ne pourra pas se relever. Drôle d'ambiance dans le stade hein, parce qu'on était à Boston, tout le monde aurait voulu une victoire de Sacha, mais c'est Charlotte qui l'emporte, du coup il n'y avait pas une grosse explosion de joie à ce
Ah
moment-là.
non.
Ça, je dirais que c'est la deuxième petite fausse note de la soirée. C'est
Ouais.
cette volonté de protéger Charlotte en pay-per-view. Apparemment, ils essayent vraiment de lui construire cette streak.
Je pense que c'est ça, ouais, c'est surtout ça.
Et c'était peut-être pas judicieux sur ce soir-là parce qu'effectivement les gens voulaient la victoire de Sasha Banks. Puis ça aurait pas changé grand-chose, je pense, au reste de l'histoire. Mais alors putain, quel match, hein. Je sais pas,
Ouais, quel
dis-nous ce que
match.
t'en penses.
Écoute, quel match. Ouais, elles ont été à la hauteur de l'événement, pour moi. J'en attendais même pas autant, je pense. Enfin, elles ont vraiment été à fond dans la stipulation, dans l'envergure du moment qui était, voilà, c'est un main event, donc première clôture de pay-per-view pour les femmes dans une cage, donc premier match à stipulation aussi pour des femmes. Donc c'était, enfin moi c'était la première fois que je voyais deux nanas dans un ring se foutre des coups de chaise comme ça dans la tronche, de s'envoyer à travers des tables et tout. Donc enfin c'était assez dingue. Donc c'était vraiment du gros gros niveau, et je suis presque triste au final, parce que je pense qu'elles sont passées à pas grand-chose d'un match 5 étoiles ou d'un match absolument historique, à quelques spots à droite à gauche, des tables qui cassent pas,
Certaines tables qui ne cassent pas, effectivement.
c'est ça, des tables qui cassent pas, des petites imprécisions, des trucs, des portées un peu ratées, des petits trucs qui font qu'à droite à gauche, les gros spots ont été un petit peu bancals, et c'est dommage parce que, enfin voilà, c'était un match exceptionnel et qui aurait pu être vraiment absolument dinguissime sans les petits loupés des spots importants. Et puis bah ouais, tu l'as dit, ce finish un peu, bon bah ils ont fait le pari, peut-être un pari plus long terme qui, c'est vrai, nous prive de notre joie instantanée, et de la joie des Bostoniens là de voir Sacha gagner, qui est, bon bah voilà, qui est le record de Charlotte en pay-per-view, qui n'empêche, ils l'ont rappelé avant le match, ils l'ont rappelé après le match, qui est assez impressionnant. Ça fait maintenant qu'elle est à 14-0 en pay-per-view, ce qui est quand même assez dingue. Elle est à 14-0 en pay-per-view, donc je pense que clairement ils misent là-dessus, et ils vont en parler de plus en plus pour peut-être la destituer à WrestleMania, parce que bah voilà, WrestleMania, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais ça fera peut-être dans 4 ou 5 pay-per-view, peut-être qu'elle sera à 20-0, je sais pas, enfin non, peut-être pas. Mais bon, en tout cas, elle aura une grosse streak, et peut-être que voilà, ils veulent jouer là-dessus pour la faire perdre contre Bayley ou contre Sacha à WrestleMania. Ils misent long terme. C'est un peu dommage parce que ça fait du mal, je trouve, à Sacha, cette défaite. Parce qu'au final, Sasha Banks, elle gagne ses titres en weekly, mais elle est incapable de les défendre en fait en pay-per-view. C'est un peu ça qu'on retire du truc, c'est que Charlotte, elle est indestructible en pay-per-view, mais Sasha Banks, elle n'arrive pas à garder sa ceinture plus de 20 jours,
Ouais,
quoi.
c'est un peu la défaite de trop pour Sasha Banks, hein, sur ce
C'est un peu
coin-là.
dur, c'est un peu dur. Alors évidemment, elle est protégée avec ce spot de début de match, cette blessure sur laquelle il joue dans le finish
C'était un
aussi.
peu long, hein, ce passage-là.
Ouais, c'était
Trop
trop
long,
long.
hein, carrément, hein.
C'était mal exécuté. C'est dommage parce que, alors moi j'ai beaucoup beaucoup aimé. Hein, tu l'as dit. Hein, c'est la cage était en train de descendre et puis alors là d'un seul coup elles se sont tapées dessus. Et ça c'est ce que j'aime dans les main events, dans les pay-per-view, c'est la folie, c'est l'imprévu. Donc là voilà, ça part dans tous les sens. Elle
Clairement,
commence à se foutre, elle se fout sur la tronche. Là Charlotte qui met une power bomb sur Sacha à travers la table des
ouais.
commentateurs.
Mais
Déjà t'es
quelle
là en
power
mode,
bomb,
ok,
hein. Oh là là.
ouais. Donc là, t'es en mode, tu te dis, oula, what the fuck, qu'est-ce que ça va être ce match de taré? Donc tu vois, tu te dis, bon, ouais, c'est super, ça part vachement bien. Et alors là, il nous joue le coup un peu à la Daniel Bryan, là, sorti sur civière et tout. Mais en fait, c'est trop long parce que elle est quasiment en train de chialer par terre, Sasha Banks, en train de dire, j'ai trop mal au dos, je peux plus, j'ai trop mal et tout. Et puis la minute d'après, quand ils annoncent que Charlotte va gagner, bon, du coup, elle se relève et ensuite elle te fait un match de 25 minutes. Pour au final le booking n'est pas inutile parce qu'ils s'en servent à la fin, mais bon bah il faut quand même suspendre son incrédulité très très haut quand même parce que elle était quasi paralysée et elle te sort un match de 25 minutes derrière, donc c'est un peu compliqué. En fait je pense qu'ils auraient dû faire un peu moins long et peut-être la laisser debout, genre ah, j'ai mal, et puis amener les médecins et peut-être la forcer à aller derrière, plutôt que de faire cette histoire de là sur civière et compagnie. C'était too much et c'était trop long.
Ouais, trop long. Bah, ouais, l'idée est bonne, mais c'est un petit peu mal
Ouais,
exécuté
l'idée est bonne.
sur ce passage-là avec le service de secours là et ce brancard. Après,
Mais bon, en tout cas, quel
quel
match?
match, hein? On était plus, moi je trouve, sur un match de cruiserweight dans une cage que dans un match de filles, hein, quasiment.
C'est vrai. À aucun moment je me suis dit que c'était un match féminin.
C'est
Enfin, c'est
ça,
vraiment, c'était impressionnant.
elles sont données à
Et
100%.
c'est pour ça, voilà, c'est pour ça qu'à ce niveau-là, elles ont été largement à la hauteur de l'événement.
Carrément. Ouais, alors là, on était sur l'historique et le match qui allait avec. Voilà, il y a plus des spots de malade. À un moment donné, il y a un sidewalk slam de Charlotte qui jette Sacha à l'extérieur du ring, qui tombe sur le
Ah ouais,
tablier du
putain.
ring et elle tombe à terre là. Oh là là. Et puis, alors
Puis à un
Charlotte,
moment.
son jeu facial, son visage qui passe de. Alors, elle est très belle en début de match. À la moitié, elle a un visage, elle est épleurée, elle a l'air d'être au bout du rouleau. Elle regarde le public avec des yeux de cocker triste. Regardez où j'en suis, je suis obligé d'aller pour aller chercher mon titre. Et à la fin, elle a encore ce visage là, défiguré par la haine là,
La haine, ouais, vraiment.
qu'on retrouve. Je trouve qu'elle est très 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 forte là-dessus.
Ça, plusieurs fois pendant le match, elle répétait respecte-moi, respecte-moi, machin et tout.
Elle a vraiment beaucoup beaucoup d'avantages, Charlotte, à tous les niveaux maintenant, hein, technique, au niveau du physique, au niveau
Ouais,
du
carrément.
micro, et puis voilà, mais aussi
C'est vrai que c'est ça, hein, j'ai bien aimé parce que j'ai vu sur le forum Hank qui disait que bah oui, enfin c'est facile parce que Charlotte, elle a ce côté un peu. Presque tout lui tombe du ciel parce que voilà, c'est la fille de Ric Flair, donc elle a toutes les opportunités et tout, ce qui est vrai, mais n'empêche que mine de rien, elle est largement largement au-dessus, et elle les mérite toutes ces opportunités parce que c'est ce que tu dis, dans son acting dans le ring, dans sa elle a la puissance, elle a l'agilité, c'est elle qui fait les meilleures promos aussi, enfin franchement il y a rien à dire, hein. Moi, ça me fait plaisir de la revoir championne parce que je trouve qu'elle est vraiment excellente et qu'elle domine la division. C'est juste que j'aurais préféré peut-être qu'elle s'échange un peu moins le titre, et puis surtout pas faire perdre Sacha à Boston là.
C'est
Mais bon,
ça, c'est surtout le fait que
c'est
ça
pas
se
une
passe à
bonne.
Boston et que Sacha perde à Boston plus
Ouais,
qu'autre chose
parce que
qui me.
ça fait un peu coup sur coup là entre l'Euro à Minnesota où ils ont essayé de faire huer Lesnar et puis bah là. Et là maintenant à Boston où ils font perdre Sacha, on a l'impression qu'ils regardent pas où est-ce qu'ils font les matchs,
C'est
quoi.
ça, un petit problème à ce niveau-là. Et puis ça prive d'une grosse, grosse explosion de joie, à mon avis, qu'il y aurait eu à la fin du
Ouais,
match.
puis
Hein.
qui aurait été
Après un
absolument
match comme
dingue,
ça.
et qui aurait rajouté encore plus, je pense, d'émotion dans un match
Ouais,
historique.
on aurait revu ça sur toutes les vidéos, ça aurait été génial, quoi. Alors, est-ce qu'on peut dire que ça y est, la révolution des divas, la révolution féminine, elle est faite à la WWE?
Écoute, en tout cas, ça, je pense que ce match y a beaucoup contribué parce que, enfin, en tout cas pour beaucoup de gens comme moi, peut-être, parce que moi j'étais vraiment, pour le coup, je suis vraiment pas catch féminin de bas à la base. Enfin, ça me tente pas trop. Je suis un peu rebuté, peut-être par ignorance, mais un peu rebuté par le côté moins physique, moins puissant, moins prodigieux. Donc tout de suite ça me botte un peu moins et enfin là j'ai été scotché parce que enfin voilà c'est ce que je disais quand on en parlait c'est la première fois que j'en voyais deux faire ce que les mecs faisaient à savoir se foutre des powerbombs à travers des tables se mettre des coups de chaise là comme ça se mettre des belly to belly souplex dans les dans la cage là il y a un moment il y a un spot qui est horrible sur Sacha aussi comme ça
Qu'est-ce qu'elle prend Sacha quand même dans le match, hein?
Ouais,
Oh
putain,
là là.
qu'est-ce qu'elle bump, mais et donc du coup, ouais, je pense que vraiment ça a contribué à ouvrir des yeux sur ce qu'étaient capables de faire des femmes dans un ring et en fait, enfin, pas ce qu'étaient capables de faire parce qu'on sait elles sont capables de faire des choses très techniques, mais en tout cas, ça a peut-être ouvert des yeux sur ce qu'elles, sur les opportunités qu'on pourrait leur donner à l'avenir. En pay-per-view, voilà des stipulations, des spots, des choses qui peut-être qu'elle pourrait faire pour continuer à grimper, et puis finir par avoir peut-être de nouveaux main events comme ça de catch parce que voilà je me suis pas du tout fait chier à avoir un main event de femme à Hell in a Cell et c'est super positif quoi ils ont réussi leur coup.
Ah bah moi je pense que c'est clairement un des meilleurs Hell in a Cell qu'on a vu depuis longtemps.
Ah bah oui.
Voilà, si on a des main events comme ça en laissant les filles s'occuper hein,
Complètement.
des matchs de main event, moi je re-signe tout de suite. Voilà, donc moi pour moi, effectivement, la révolution elle est faite. Voilà, hein, là on a.
C'est quand même un grand palier de
C'est
franchi.
ça, hein, et maintenant elles font le main event, elles se battent dans la cage, je vois pas qu'est-ce que les gens veulent de plus. Voilà, donc bon, vraiment plutôt une belle réussite hein, au final ce pay-per-view. Qu'est-ce qu'on fait? On donne une note? Tu veux donner une note?
On peut
Sur
donner
le
une note.
fou?
Écoute, moi je vais donner 4 sur 5.
4
Voilà.
sur 5.
J'ai trouvé que c'était un super Hell in a Cell. Voilà, j'ai pas bien construit.
Ok. Et ben moi je vais mettre plus que toi, je vais mettre 4,5.
Waouh.
Voilà, c'était super cool, c'était historique. Quelques petites fausses notes, mais bon,
Ouais. Mais
c'est.
ils sont vraiment bien servis de ce triptyque de main event là pour bien construire leur show, un au début, un au milieu, un à la fin, des Hell in a Cell très différents, une mid-card relativement plaisante au final. Donc franchement, un super pay-per-view, ouais.
Voilà, c'est du très très bon. Jetez-vous dessus si vous l'avez pas encore vu. Voilà, voilà ce qu'il en est de ce pay-per-view. La suite du feuilleton de la TNA. Billy Corgan. La semaine dernière, on vous avait laissé en vous expliquant que Billy Corgan, il était reparti de l'histoire, remboursé par les créanciers de la TNA. Comme j'avais dit, Billy Corgan, c'est pas un mec qui lâche facilement, donc il est revenu à l'assaut. Il a tenté un procès contre la TNA en expliquant qu'il pouvait pas y avoir de vente suivant le contrat qu'il avait fait à l'époque quand il avait prêté de l'argent à la compagnie. Mais il a été débouté de sa plainte parce que donc apparemment il n'a pas assez de preuves. Donc le procès n'aura pas lieu pour l'instant, sauf s'il réussit à ramener de nouvelles preuves, hein. Ils attendent juste plus de preuves au niveau de la TNA. Donc pour l'instant, on se retrouve toujours dans la même situation, avec toujours Dixie Carter aux commandes, Harolux qui est là pour financer donc la TNA. Par contre, on a plein de mauvaises nouvelles qui tombent également. L'avenir n'est pas rose hein, pour la TNA. Les enregistrements sont reportés. Il y avait un segment prévu avec les frères Hardy hein, qui font toujours le buzz sur Internet, qui devait s'appeler Total Non-Stop Deletion.
Parce que là, il y a plus de TNA en ce moment.
Y a toujours, parce que ça a été enregistré à l'avance, en
Ah.
fait. Donc ils peuvent toujours présenter des émissions. vu que c'est les émissions qui ont été enregistrées. Mais ça va finir par s'arrêter. Il faut qu'ils fournissent les prochains épisodes pour le 15 décembre. S'ils sont à défaut, et ben ils perdent leur créneau normalement avec la chaîne Pop, qui est déjà pas un créneau très avantageux. Mais alors, ce qui se passe, c'est que l'argent qu'ils ont pour tourner donc le spot des Hardy, bah, comme ils n'ont plus trop d'argent, bah, ils vont essayer de l'utiliser pour faire la totalité des enregistrements, donc toutes les émissions de TNA Impact Wrestling. Donc voilà, on est un peu dans une situation floue. Et la dernière mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que la TNA perd aussi son spot sur la télé anglaise à partir de janvier. La chaîne Challenge TV, qui diffusait la TNA en Angleterre, eh ben, ne diffusera plus la TNA. C'est une grosse rentrée d'argent, ça, pour la TNA. Donc voilà, c'est vraiment mal
C'est la cata.
barré. Surtout qu'il leur reste aussi quelque chose de rentable, c'est-à-dire leur contrat en Inde. Mais le problème, c'est qu'ils devaient aller faire une tournée en Inde et qu'ils ne l'ont pas faite et que c'était une pa partie des clauses du contrat. Donc ils risquent aussi de perdre leur.
Ouais, donc ils vont se faire squeezer aussi
Ils
là.
risquent fort de se faire squeezer. C'était le partenariat avec Sony Six en Inde. Donc là, c'est vraiment, ça sent vraiment le sapin pour la TNA. Bon, toi, je sais que tu suis pas trop la TNA, mais
Non.
de ton regard candide, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que
De mon regard candide, vraiment de l'extérieur, parce que je suis de très loin par l'intermédiaire de vos commentaires, mais enfin, ça m'a l'air de puer quand même vénère. Donc je vois pas trop en fait quelles sont les prochaines étapes pour eux, parce que s'ils ont plus un rond pour enregistrer des émissions et ils arrivent pas enfin à trouver des investisseurs corrects, enfin il va falloir un moment qu'ils mettent la clé sous la porte, enfin je sais pas ou qu'ils se fassent racheter. Mais est-ce qu'il y a des racheteurs sérieux actuellement pour la TNS? C'est ça le
C'est
truc.
tellement endetté que je vois pas
Parce que ça, oui, c'est ça le
qui
truc, c'est que ça a
serait
l'air complètement
assez
pourri.
bête pour aller, à part Billy Corgan, évidemment.
Non, parce que même en termes d'assets, ils ont pas une marque qui est très
Du
forte.
tout. Du tout.
La TNS, ça n'a jamais non plus rayonné un truc fou furieux. Ils ont pas non plus un pool de contrats de catcheurs de très très haute qualité, à part peut-être les frères Hardy ou ils ont qui d'autre? Ils ont Lashley et puis peut-être des champions qui sont intéressants, mais
Ouais, non,
enfin c'est
personne de. Après,
assez.
c'est quoi? C'est Daniel Sandow et Drew
Ouais,
McIntyre, tu
c'est un
vois?
peu maigre, donc
On n'est
ouais, donc on
pas.
voit mal. Enfin voilà, c'est pas non plus super attrayant. Donc si à côté, si en face de la marque et de ces deux trois péquenauds, il y a que des dettes,
C'est
ouais,
ça.
c'est
Non,
ça sent
ce qui est
pas bon.
intéressant pour un racheteur, c'est les spots télé. Et comme ils sont en. Voilà,
Oui.
donc ils ont déjà perdu le spot en Angleterre. L'Inde, ça
Là, ils
risque de
perdent.
pas tarder. Pop TV, ça devient difficile, sachant que Pop TV, ça leur rapporte déjà pas grand-chose.
Non.
Donc là, je pense que c'est quand
Parce
même.
que pour le coup, autant l'Angleterre et l'Inde, ça peut être des spots stratégiques, autant une chaîne de troisième ou quatrième zone américaine, quand on connaît déjà le rayonnement de la TNS, c'est vraiment,
Ouais,
enfin,
parce que
c'est limite
je
zéro,
pense que
quoi.
même la TNA a peut-être plus de renommée en France qu'aux États-Unis, du fait de ses
Peut-être.
passages à la télé, parce que personne, en vérité, aux États-Unis, personne ne connaît la TNA. Je veux dire, quand ils sont dans les aéroports, par exemple, Kurt Angle ou Christian, quand il était à la TNA, quand il croisait les gens lui demandaient qu'est-ce que vous faites en ce moment, vous êtes encore à la télé, alors qu'ils étaient champions TNA. Voilà.
Ouais, c'est incroyable.
Voilà, l'intérêt, ce serait d'avoir ce spot TV, mais maintenant que ça a disparu, je pense que là, je pense pas que ça passera 2017, hein. Malgré.
Parce qu'en plus, il y avait un moment où on disait que c'est peut-être que la WWE pouvait potentiellement racheter les bandes vidéo, en fait les archives vidéo, mais enfin même ça, enfin si, parce que ça permet quoi? Ça permet de filer des titres de champion en plus à certaines personnes.
Bah, c'est pour
Puis
alimenter
c'est
le network. Ils avaient une volonté à la VVE là, de présenter un peu des choses autres que la WWE. Ils avaient fait des sondages où ils proposaient, par exemple, si les gens seraient intéressés par la Ring of Honor, la TNA, des choses comme ça.
D'accord.
Simplement pour avoir un catalogue plus fourni, hein. Ils ont aussi des trucs, les vidéos des anciens territoires, etc.
Au final, je vois pas la WWE racheter toute la
Non, ça
fédération,
ce
juste
sera
ça,
pas
quoi.
possible. Il y a trop de dettes. Hein.
Ouais,
Il faudrait être idiot pour acheter ce.
ce serait pas good for
Non,
business.
bad, bad, bad. Voilà, voilà ce qu'il en est pour les dernières news de la TNA. Alors, on va enchaîner sur les nouveaux arrivants à la WWE cette fois-ci, NXT. On a quelques gros noms qui sont sortis de la scène indépendante. On a Tommy End, donc catcheur européen hein, qui est passé un petit peu par les fédérations en Angleterre, en Allemagne. Il est passé aussi à la Evolve. À Progress Wrestling en Angleterre. Alors c'est un mec qui est quand même un sacré charisme. Bon, il a pas un physique énorme. Il a une espèce de charisme entre Bray Wyatt
Il a une belle
et belle
barbe.
barbe, voilà. Il est à mi-chemin entre CM Punk et Bray Wyatt. Il y a du potentiel.
Sur le papier, c'est
Sur
sympa.
le papier, c'est sympa. Après, faut voir qu'est-ce qu'il arrive à sortir en promo. Il faudrait pas qu'il soit bloqué comme un Cesaro ou quelque chose comme
Oui.
ça. Après, au niveau in-ring, c'est pas un high flyer, c'est pas un technicien de folie, mais il est solide. Voilà, s'il joue sur le charisme, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Il a du potentiel. Big Damo, alors ça aussi, c'est un catcheur anglais qui s'est entraîné avec Finn Bálor notamment. Un bon gros bébé, un bon gros balèze, avec un physique impressionnant. Ça peut fonctionner à la WWE, je pense. On l'avait vu hein, un petit peu à la TNA également quand ils avaient fait leur tournée en Angleterre.
Yes.
Donc ça peut donner quelque chose d'intéressant. Et on a Mademoiselle Crazy Mary Dobson qui débarque. Alors elle, j'ai jamais vu catcher, donc je pourrais pas vous en dire plus. Mais bon, ça apparemment elle a le niveau, donc ça pourrait donner du bon dans la division féminine, hein, parce qu'il y a besoin de haut niveau hein, pour la division féminine, notamment NXT où c'est un petit peu sec en ce moment, parce que les petites catcheuses australiennes qu'ils ont, elles sont pas terribles, mais et ben, il nous reste Asuka.
Ouais, je suis pas transcendé par les petites australiennes, la Billie Kay et tout
Voilà,
ça,
Billie
et
Kay, Liv Morgan, et puis je sais plus comment
ouais.
s'appellent les autres, mais c'est pas bon. On est loin de ce qui se fait ailleurs, et puis j'ai pas l'impression qu'elles pourront aller un petit peu au-dessus de ce qu'elles font actuellement. Donc, on réinjecte du sang neuf dans la division féminine, bah aussi également avec deux lutteuses japonaises, deux lutteuses de la Stardom, une certaine Yoshirei et également Kairi Ojo. Donc ça c'est pareil, je ne l'ai jamais vu catcher, donc je pourrais pas vous en dire plus. Mais en tout cas, si elles sont du niveau d'Asuka, ça devrait être pas mal, parce
Ah
que
bah,
ça, à
ah
mon
oui.
avis, ça doit être deux belles bagarreuses, connaissant le catch japonais. Voilà, bon, je pense que Siskel, t'as peut-être pas grand-chose à dire sur tout ça.
Non, si ce n'est que ouais, je les ai vus en effet sur le bah, sur le papier, ils ont l'air intéressants. Et puis je remarque qu'ils ont manifestement les deux mecs ont 31, je crois que sont relativement ils sont quand même assez établis, mais ils sont quand même assez enfin ils sont jeunes quoi, ils sont dans la fleur de l'âge, donc ça c'est plutôt pas mal. Si jamais c'est des mecs intéressants, ils sont quasiment ils ont de l'expérience et ils ont un peu de ils ont quand même quelques années à tirer derrière à la WWE. Et puis elle, manifestement, elle a 23 ans, Crazy Mary, donc elle, pour le coup, elle est super jeune.
Faudrait pas que bon Alberto Del Rio n'est plus là donc
Oui, alors attention, s'il n'y a pas un autre prédateur
voilà dans les vestiaires
qui risquerait de lui faire tourner la tête à elle,
voilà.
mais non, non. Donc, bah, écoute, on verra bien. Moi, je regarde du coin de l'œil NXT, donc j'attends de voir ce que vont donner ces petits nouveaux. C'est toujours agréable de voir des nouvelles têtes.
C'est ça, exactement. C'est toujours bon de savoir qu'ils continuent à embaucher. Ils ont fait des gros
Puis
recrutements en Chine. Et puis bon, il y a d'autres aussi catcheurs, mais alors qui sont des athlètes plutôt, hein, qui ont été embauchés à NXT, des anciens footballeurs américains, des choses comme ça.
oui, ça, ils aiment bien
Donc
aussi, hein.
voilà, donc là il y a encore tout un arrivage. Il y a de quoi faire à NXT. La suite des infos, c'est ce nouvel acteur dans le monde du catch. C'est Flow Sport qui s'allie donc au World Wrestling Network, le WWN, pour le lancement de Flow Slam TV, qui va proposer rien de moins que des pay-per-view des fédérations indépendantes. Alors notamment la Evolve, la Shine, la Full Impact Pro. Je crois qu'il y aura aussi la Dragon Gate, si je dis pas de bêtises. Dragon Gate USA. Donc ce qu'on se trouvait sur le WWN, alors je sais pas si y a beaucoup de nos auditeurs qui connaissent, mais c'était une plateforme de streaming qui propose l'achat des pay-per-view de toutes les petites fédérations indépendantes. Alors, l'abonnement, il revient à 20 $ par mois quand même. Ça fait environ 18,40 €. Ce qui fait deux fois plus que le WWE Network. Sachant que pour les avoir vus, les pay-per-view des fédérations indépendantes, niveau production, niveau technique, on est quand même
Des
à
années-lumière,
des
hein.
années-lumière, effectivement, de la WWE. Alors, on peut avoir une ristourne si on prend à l'année, mais je suppose qu'il faut payer l'année en entier.
Ah bah oui, je pense, oui.
Donc voilà, est-ce que par exemple toi, hein, qui est un suiveur quand même plutôt de la WWE, est-ce que par
Ah oui.
curiosité, t'irais tenter ta chance là-dedans, ou est-ce que c'est définitivement trop cher?
Franchement, ouais, pour moi, c'est rédhibitoire presque 20 $. Quand tu vois, je sais que c'est pas le même produit, hein, mais quand tu vois la richesse du WWE Network et la qualité de production, la diversité des émissions et tout qu'ils proposent pour 9,99, je vais pas faire le VRP de la WWE, mais c'est quand même, de mon point de vue, autrement plus intéressant que 20 $ pour un service, voilà, de streaming qui se lance avec des fédérations obscures, parce que en fait, l'offre telle qu'elle apparaît aujourd'hui, ça me elle m'apparaît un peu comme, finalement, ils ont deux trois fédérations d'appel, grosso modo, ils ont quelques grosses fédés. Mais le reste, c'est quand même, c'est du ultra ultra indépendant, très très obscur. Enfin, c'est des toutes petites fédérations. Donc voilà, est-ce qu'on a vraiment envie de payer tout ce package pour 20 $ à l'heure du aujourd'hui, à l'heure du tout gratuit, du streaming accessible à tous? Quand je dis ça, j'encourage pas le piratage, mais je dis juste que est-ce qu'ils vont arriver à tenter suffisamment des gens qui, avant ça, se procurer gratuitement la majorité de leur catch? Est-ce qu'ils vont arriver à les convaincre de dépenser 20 € pour les soutenir dans leur projet, sur une bibliothèque qui est ce qu'elle est, quoi. Enfin, pour moi, qui ne rivalise pas quand même avec ce qu'on peut trouver ailleurs pour moins cher. Donc voilà, pour moi, 20 $, c'est quasi éliminatoire, quoi, dans la course au streaming aujourd'hui, quoi.
Ouais, et puis il manque un peu effectivement certaines fédérations comme la Ring of Honor. Ça
Ouais,
c'est
après
dommage de
voilà,
pas
est-ce
avoir
que...
signé un accord avec eux parce que ça aurait été un beau produit d'appel.
Ouais.
Sachant
Est-ce que s'ils arrivent à faire un package
que
plus glamour, peut-être, avec de plus grosses,
il
voilà, une
manque
sorte de contre-pouvoir,
la
quoi.
Pro Wrestling Guerrilla. Voilà les grosses finalement les peut-être les fédérations indépendantes les plus intéressantes elles sont pas dans le programme. La Evolve je trouve ça pas mal mais c'est au niveau de la production c'est quand même difficile hein, à regarder hein, les réalisations c'est vraiment au ras des pâquerettes. Alors peut-être que ça permettra d'avoir un petit peu plus de financement justement pour la réalisation des shows à partir de là si ça devient un peu plus
Il y a
propre
ça, ouais, il y a ça
Alors, faut
aussi.
savoir
Et...
qu'il y a aussi la. Alors, Flow Slam, c'est déjà une société qui a l'air insolide. Mais il faut savoir qu'il y a la WWE qui a investi aussi dedans. Hein, donc, ça reste dans le giron finalement de la WWE. Sachant que la Evolve, par exemple, hein, qui est un petit peu la plus grosse fédération du truc, c'est un peu l'autre fédération de développement de la WWE. Hein, parce que tous les Bruiserweight venaient de
D'accord.
là-bas. Voilà, on peut pas considérer, je pense, que c'est une alternative vraiment
Non.
crédible
Mais
à...
après, est-ce que s'ils arrivent peut-être à rassembler vraiment toutes les grosses fédés indépendantes, ça peut être intéressant de voir justement un produit, bah un peu, voilà, une sorte de contre-pouvoir se développer au niveau des plateformes de streaming. Ça peut être sympa. Et moi, je sais que ça pourrait me tenter peut-être de mettre un mois par curiosité pour découvrir d'autres choses. Mais c'est vrai que là, en l'état, 20 $ avec ce qu'ils proposent actuellement, ça me semble indécent. La Lucha Underground, ça peut pas être une cible pour ce genre de produit, ou c'est trop à part
Bah,
et
la
déjà
Lucha
bien.
Underground, c'est une série télé en vérité, hein. C'est pas vraiment une fédération. Je sais qu'ils font quelques petits shows quand même,
Ouais, c'est vrai que c'est un peu
quelques
différent sur
house
Lucha.
shows, mais on n'est pas vraiment sur le circuit, sur le vrai circuit indépendant. C'est lié à
Et
la.
les fédés japonaises ne sont pas du tout concernées par ce type
Bah,
de...
il me semble qu'il y a la Dragon Gate dans l'histoire,
Ah.
c'est pas vraiment mentionné dans les news, alors je sais pas, parce que je suppose que ça va se dénouer au fil du temps, hein. Je pense qu'ils vont peut-être.
Après, c'est une bonne initiative, hein, parce que c'est vrai que s'ils arrivent à rassembler suffisamment de grosses fédérations sous le giron là de cette plateforme, ça peut justement, bah, peut-être être une source de revenus pour ces fédés, pour se développer, qui est intéressante, hein, c'est... Mais bon, à
Voilà,
voir, à
à
voir.
voir pour la suite. Une petite info rapido sur le Survivor Series. Faut savoir que ça fera 4 heures. Ils ont prévu une durée de 4 heures, encore une fois, pour ce pay-per-view. Alors, du coup. Hein, comme on est à Talking Catch, la règle normalement c'est de savoir si est-ce que c'est smart, est-ce que c'est trash. Alors, du
Oui,
coup,
c'est vrai.
4 heures de pay-per-view, est-ce que tu trouves que c'est smart, est-ce que tu trouves que c'est trash?
Pour moi, c'est trash. Moi, à part WrestleMania, il n'y a aucun pay-per-view qui devrait faire 4 heures. C'est trop long. C'est trop long. Donc non, pour moi, c'est trash. Pas la peine de développer plus que ça. Vous le dites chaque semaine déjà à Raw qui fait 3 heures, on n'en peut plus. Donc, des pay-per-view de 4 heures, c'est pas possible. Et on l'a vu à Hell in a Cell, 3 heures, c'est largement suffisant. C'est même pas 3 heures, d'ailleurs, c'est un peu moins de 3 heures. C'est largement suffisant pour faire un show de qualité avec une carte de 6 ou 7 matchs, c'est très bien. Donc, non, moi je suis pas fan de ça.
Exactement, on met ça dans la poubelle. Voilà, et ce qui est pas bien aussi, c'est les podcasts qui ne terminent jamais. Alors, rapidos, une petite info sur Austin Harris, qui a été blessé par Shinsuke Nakamura, qui lui a explosé l'œil.
C'est pas bien
Ça, c'est
ça.
pas bien, hein, et un coup de pied un peu mal porté. Hein, il faisait un match par équipe, hein, c'était Austin Harris et Samoa Joe qui affrontaient l'équipe du champion, donc Shinsuke Nakamura, qui était associé à Noé José. Puis vers la fin du match, Nakamura lui porte un sale coup de pied à Austin Harris.
J'espère
Voilà,
qu'il sera pas pénalisé.
non, 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 ça fait plus de peur que de mal. Hein, visuellement, ça fait peur. Il a posé quelques photos sur Twitter.
Apparemment, j'ai vu qu'il était out pour le reste de l'année,
Ah ouais?
hein.
Eh ben, dis donc.
Ouais. J'ai cru voir ça, hein, parce que bah il lui a quand même fracturé la cavité oculaire là. Enfin,
Ok.
donc du coup c'est compliqué, quoi. C'est des opérations, ça prend un peu de temps.
D'accord. Bon, bah écoute, pour l'instant, on va avoir un Austin Harris sur la touche. On vous en dira plus dans les prochaines éditions. On suivra ça de près parce qu'Austin Harris, c'est quand même triste, hein, s'il n'est pas là pendant un moment. Voilà, on a fait le tour des news, on a fait le tour des Hell in a Cell. Alors,
Ouf,
c'est
c'est bon.
bon. On vous rappelle rapidement que vous nous retrouvez sur iTunes, sur YouTube, la chaîne des Cahiers du Catch, sur Podcloud également. Vous allez avoir Catch Up, hein, qui va arriver incessamment sous peu sur Monday Night Raw, le supplément SmackDown avec l'ami Giscal, l'ami IRM aussi. Eh ben, il me reste plus qu'à te remercier, Giscal.
Écoute, merci à
Eh
toi.
ben, c'est moi. Et puis voilà, puis je vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis, je vous souhaite toujours une bonne semaine pleine de catch. Ciao, ciao.
Salut tout le monde!